Et tout de suite, voici la revue de presse, Claude Askolovitch. Bonjour Claude.
Bonjour Marc.
Ce matin, pour commencer, la mort d'une jeune femme.
Naomi Musanga, qui appelait le SAMU de Strasbourg le 27 décembre dernier parce qu'elle se sentait mourir, elle est morte effectivement après avoir été moquée et sans doute retardée par l'opératrice de la plateforme. Le scandale qui secoue le SAMU, c'est la une du Parisien, qui rappelle aussi que Naomi n'est pas la seule personne à avoir été maltraitée dans l'urgence. Thomas en témoigne, qui fut amputé de la jambe après avoir été invité à réduire lui-même sa fracture avant d'aller à l'hôpital. Mais pour que toute cette compréhension, ces analyse sur les dysfonctionnements de l'urgence nous arrive, il a fallu d'abord que l'on entende la voix de Naomi parlant au SAMU et il a fallu donc qu'un journal publie cette voix en premier. Il s'appelle Hebdi, ce qui est un jeu de mots. Hebdi signifie « accroche-toi » en alsacien, un journal impoli minoritaire de dessins caustiques et de papier fâché, un site internet et un mensuel qui, dans sa dernière édition, dénonçait l'agonie d'un centre anti-cancer à Strasbourg. Il y a moins de lits là-bas pour l'oncologie. Hebdi avait mis en ligne l'enregistrement de Naomi le 27 avril dernier. Il a donc fallu une dizaine de jours pour que le scoop des dissidents devienne un scandale confirmé et authentifié par les médias légitimes. Mais qui est légitime au fait ? Hebdi est porté par son fondateur Thierry Hans. C'est un ancien électricien passé à la presse parce que les journaux qu'il lisait ne le satisfaisaient pas. Il a lancé Hebdi en auto-entrepreneur et il le maintient en dépit de l'hostilité des banques. Il a raconté tout cela sur un site, vous pouvez le lire, c'est en ligne, Capital Investissement consacré aux PME. Et savez-vous, Hebdi ne va pas bien. Hebdi pétitionne pour survivre. On trouve sur le site du journal un appel aux subventions. Il reste 75 jours pour sauver Hebdi qui nous a fait connaître l'agonie de Naomi. C'est donc aussi une histoire de journalisme que l'on raconte ce matin, du journalisme à la base au plus près du terrain, quand nos grands journaux veulent eux éclairer l'inquiétante obscurité de la planète, quand Donald Trump fait les unes de La Croix, de Libération, des Échos et du Figaro, quand Mediapart expose BlackRock. Qu'est-ce que BlackRock ? L'institution financière la plus puissante au monde. Plus de 6 milliards de dollars d'actifs issus des fonds de pension des retraités américains. BlackRock,
6 000 milliards.
6 000 milliards. Ouais. 6 000 milliards de dollars d'actifs issus des fonds de pension des retraités américains. Merci Marc de m'avoir corrigé. BlackRock, qui fort de ces 6 000 milliards de dollars, voudra imposer à l'Europe son modèle de retraite par capitalisation. Mais si loin de Trump ou de BlackRock, il y avait Naomi Musanga et un petit journal alsacien menacé assez populiste, Hebdi l'impoli d'une histoire locale nous a éclairé.
Un héros français parle dans le monde.
Et celui-là nous éclaire de son grand âge, Daniel Cordier, 97 ans, qui à l'âge de 20 ans rejoignait le général de Gaulle et devint le secrétaire de Jean Moulin dans la Résistance. Il a déjà beaucoup écrit et parlé, Cordier, mais on le retrouve toujours avec bonheur dans le monde. Tant ce vieil homme sait ranimer la lumière de l'enfant héroïque et de son maître Jean Moulin, qui le trouvait trop maigre et lui parlait de peinture dans des cafés pour déconcerter les espions de la Gestapo. Moulin, qui aurait voulu emmener Cordier après-guerre au Prado de Madrid découvrir les tableaux de Goya, et Cordier rend l'histoire à la simple humanité d'un jeune homme et à sa vérité quotidienne. Mais comment peut-on parler de sa vérité ? Et l'interview se termine en suspension quand le journaliste du Monde, il s'appelle Thomas Vider, rappelle à Cordier leur précédente rencontre. Cordier lui avait dit cela en évoquant ses mémoires inachevées. « Il manque encore ma vie amoureuse. Or, je suis homosexuel et même si je ne m'en suis jamais caché, je n'en ai jamais parlé car ce sont des choses difficiles à écrire, surtout pour un homme de ma génération. » Et Thomas Vider interroge Cordier « Où en êtes-vous aujourd'hui ?» Réponse « Je suis toujours dessus, le manuscrit est à côté de moi. Quant à parler de ma vie amoureuse, ça reste difficile. Je pense surtout que chacun doit vivre sa sexualité comme il l'entend et que ça ne regarde personne. Je le pense depuis très longtemps, depuis Londres peut-être. Cela va avec l'idée de liberté. » Et la réponse est belle, mais il flotte, pardon, autre chose, des questions que l'on va retrouver en ligne dans un vieil article de Vanity Fair, par exemple, datant d'octobre 2016, portant sur l'homosexualité non pas de Cordier, mais celle de Jean Moulin lui-même. Question sans réponse, mais quelle force, au temps de l'homophobie, aurait eu cette révélation si l'incarnation même de la Résistance française avait été un homosexuel ? Sauf que le temps a passé, y a-t-il encore un enjeu quand la liberté est devenue une banalité ? Le journal du Centre, au cœur de la France, fait sa une sur le mariage gay. 90 unions ont été célébrées dans la Nièvre depuis 5 ans. Les Inrecuptibles mettent deux garçons à la une qui sont les protagonistes amoureux du nouveau film de Christophe Honoré. Et n'on voit plus ici qu'un couple tendre et aucune transgression. Il est désormais d'autres luttes.
Enfin, on parle des combats des femmes ce matin.
Qui, nous dit Libération, sont comme les hommes attrapés et meurent parfois de l'alcoolisme. Il faut donc revoir nos clichés et nos habitudes sur un fléau social que l'on ignore. Ce n'est plus de Gervaise de Zola que l'on part, mais d'une femme active, de bonnes conditions sociales, qui à l'approche de la trentaine s'égare, boit et se cache. Les femmes, qui nous dit l'Express, sont à l'école victimes de violences sexistes. Et cette couverture et cet article frappent d'abord par la banalité des agressions et presque la banalité du consentement fataliste des jeunes victimes. « Pourquoi porterais-je plainte ?» dit une adolescente. « Les garçons qui m'ont agressée ne m'ont pas violée. » À propos de viol, il y a des ambiguïtés dans la loi contre les violences sexuelles que porte Marlène Schiappa, c'est expliqué dans Le Figaro. Vous verrez enfin, Histoire de femmes, j'en termine et on parle de Cannes. Dans le Huffington Post, le regard le plus intense c'est le plus tendre qu'un être humain peut porter sur un autre, des yeux limpides et un sourire esquissé qui dit l'admiration ou l'amour ou plus encore. C'est la jeune actrice Kristen Stewart qui regarde ainsi sa présidente de jury Kate Blanchett. La photo a fait rêver des internautes et moi-même, j'aime à penser que Daniel Cordier regardait ainsi Rex Jean Moulin dans un temps autrement dramatique.